Alors, si vous voulez suivre avec votre Bible, on sera à la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 14. N'hésitez pas à sortir vos téléphones pour lire ensemble. Si vous avez une Bible comme ça, c'est à la page 1083. Donc, n'hésitez pas non plus à prendre ces Bibles et même à vous lever maintenant, si vous le souhaitez, hein, ça ne me dérange pas du tout, pour aller chercher une Bible et suivre ensemble le texte biblique. La question que ce texte nous pose, à quoi servent nos cultes? Peut-être que ce matin, vous êtes là pour découvrir qui sont les chrétiens et ce qu'ils font. Peut-être que vous venez pour accompagner un membre de votre famille. Peut-être que vous venez pour avoir un lien social. Ou peut-être que vous venez pour vous édifier vous-même. Et Paul, dans ce texte, nous rappelle la priorité. Non pas que ces choses ne sont pas importantes, mais nous rappelle la priorité. Le culte sert à l'édification, à la construction du corps du Christ. Le but du culte, c'est de construire cette communauté du roi. Dans cette communauté, c'est Dieu qui est le roi. Dans cette communauté, Dieu nous donne, nous comble de toutes ses bénédictions spirituelles. Dans cette communauté, nous pouvons être joyeux, heureux. Dans cette communauté, l'apôtre Paul le dira dans l'Épître aux Romains, qu'on peut vivre des choses désagréables, très désagréables, ici, maintenant, tout de suite, mais qu'il n'y a pas de commune mesure entre la gloire qui se révèle, et qui va se révéler en nous par l'action de l'Esprit. Donc l'idée n'est pas de former une communauté pour former un groupe social, non, c'est pour être transformé, renouvelé dans notre nouvelle humanité, dans notre vraie humanité plutôt, celle qui était prévue pour nous à la base. Et si vous êtes là juste pour découvrir qui sont les chrétiens, alors c'est un bon exemple pour vous présenter à quoi vont servir nos cultes. Je vous propose de lire ensemble. Première épître de Paul aux Corinthiens, des versets 1 à 25. Poursuivez l'amour. Chapitre 13. Aspirez aux pratiques spirituelles, surtout à celles qui consistent à parler en prophète. Chapitre 12. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux humains. Il construit, il encourage, il réconforte. Celui qui parle en langue, se construit lui-même. Celui qui parle en prophète construit l'Église. Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère encore que vous parliez en prophète. Celui qui parle en prophète est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que cela contribue à la construction de l'Église. Et maintenant, mes frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui produisent un son, comme la flûte ou le lyre, ne produisent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou le lyre? Ou la lyre. Et si la trompette produit un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous aussi, si par la langue vous ne produisez pas une parole significative, comment saura-t-on ce qui est dit? Vous parlerez en l'air. Si nombreux que soient les diverses langues du monde, aucun n'est dépourvu de sens. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez et y excellez, mais pour la construction de l'Église. Que celui qui parle en langue prie donc pour qu'il soit donné d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire alors ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi de façon intelligible. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. En effet, si c'est par l'esprit seulement que tu prononces la bénédiction, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Toi, certes, tu prononces des belles actions de grâce, mais cela n'est pas constructif pour l'autre. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Mes frères, ne soyez pas des enfants pour ce qui est du jugement. Pour ce qui est du mal, pardon, mes frères, ne soyez pas des enfants pour ce qui est du jugement. Pour ce qui est du mal, soyez des enfants. Mais pour ce qui est du jugement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des gens des autres langues et par les lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le message de prophète, au contraire, est un signe non pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Admettons que l'Église entière se rassemble et que tous parlent en langue. S'il survient de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? En revanche, si tous parlent en prophète et qu'il survienne un non-croyant ou un simple auditeur, il est confondu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur deviennent manifestes. Alors, tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous ». Paul veut que nous soyons au clair sur les pratiques spirituelles. Elles ont un but, celle de l'édification du corps du Christ. Et j'ai insisté dans la lecture 3 fois. Il nous rappelle que c'est pour construire l'Église. Et si on poursuit le chapitre qui n'est pas fini, il évoquera cette idée encore 2 autres fois. Dieu le Père nous unit pour former un corps autour du Christ. Son corps qui nous unit ensemble, l'Esprit qui nous unit ensemble, et Christ à la tête de ce corps. Étant unis à lui, nous nous rassemblons en vue de construire l'Église, le corps du Christ. Comment construire ce corps ? Comment construire cette Église ? Comment construire cette communauté ? Premièrement, toute participation doit être intelligible. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Tout ce que nous pouvons dire ou faire dans l'Église doit être compris par tous. Et comment Paul illustre ça ? Il illustre ça par 2 manières de parler. Le parler en langue et le parler en prophète. Qu'est-ce qu'il nous dit du parler en langue dans ce texte ? Il nous rappelle que c'est une langue que personne ne comprend, même pas celui qui le prononce, verset 2, verset 14. Il nous rappelle que c'est une langue qui parle à Dieu, verset 2. Il nous rappelle que c'est une langue qui permet de se construire soi-même, verset 4. Il rappelle que c'est un signe de jugement pour ceux qui écoutent, verset 21. Et je reviendrai sur cet aspect plus tard. Si vous êtes chrétien, vous savez que cette question est un peu délicate. Et de quoi parle Paul quand il parle de parler en langue ? On identifie dans le Nouveau Testament 2 types de parler en langue. Un parler en langue qui est une langue humaine, par exemple si je me mets à parler chinois maintenant, peut-être que c'est déjà du chinois pour vous, je ne l'espère pas, mais si je me mets à parler chinois maintenant, je parle dans une langue humaine que je ne connais pas grâce à l'Esprit qui me donne de parler cette langue. C'est ce qu'on retrouve dans Acte 2, Acte 10, Acte 19. Ce n'est pas le propos. Le propos de ce texte n'est pas de savoir, dans un cas comme dans l'autre, le cas de ce texte est de dire que toute parole doit être compréhensible. Donc, d'une façon comme dans l'autre, dans les deux cas, c'est incompréhensible. Et je reviendrai dessus après, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il est dit de parler en prophète ? J'utilise exprès l'expression parler en prophète et parler en langue. D'autres traductions diront parler en langue inconnue ou même parler, ou prophétiser. Mais je préfère utiliser parler en prophète qui est moins chargé que dire prophétiser. Le sens est moins lourd et ça met mieux en position ou en tension plutôt le parler en prophète et le parler en langue. Donc, le parler en prophète nous dit que c'est parler dans la langue commune à l'endroit où l'on est. C'est-à-dire parler de manière intelligible, audible. J'essaie de vous parler en français. Le parler en prophète parle pour construire, pour encourager, pour réconforter. Et dans ce chapitre, Paul ne parle pas de la prédiction d'événements à venir. Parler en prophète consiste plutôt à transmettre des messages reçus de Dieu sous la forme d'énoncés intelligibles dans le but d'édifier ou de construire l'Église et par là, chaque chrétien. Donc la prophétie, le parler en prophète, consiste à parler aux humains pour leur communiquer un message de la part de Dieu. Et parler en prophète, c'est une expression de l'amour de Dieu pour nous, ce qu'on verra à la fin. C'est ce que nous efforçons de faire quand nous prenons la parole, quand nous commentons la parole de Dieu, quand nous l'expliquons, nous voulons encourager, réconforter, communiquer une parole bienveillante de Dieu, son amour pour nous. Le but est de construire le corps du Christ. Si vous êtes chrétien et que vous ne parlez pas en langue, alors vous n'êtes pas trop déstabilisé par ce que je raconte. Si vous êtes chrétien et que vous ayez cette forme de piété, de parler en langue, alors vous êtes peut-être embêté. Et vous avez envie de me jeter des cailloux. Soyez plein d'amour, les amis. Pourquoi ? Pourquoi Paul parle-t-il comme ça ? Il paraît un peu violent, quand même. Juste un peu rappeler le contexte. Les Corinthiens pensaient que la maturité spirituelle se voyait, se mesurait à l'intensité de leur expérience mystique, de prière. Pour eux, plus une expérience est spectaculaire, exaltante, surnaturelle, plus ça montre qu'elle est spirituelle. Vous comprenez l'idée ? Plus c'est surnaturel, plus ça se voit, plus c'est démonstratif, plus c'est gros, c'est-à-dire que je suis plus chrétien que les autres. Les Corinthiens sont comme ça. Il faut que ça se voit. On ne va pas les accuser, ils pensaient comme ça, ils comprenaient leur foi comme ça. Mais Paul leur dit pas du tout, les amis. La maturité spirituelle, ce n'est pas celui qui a l'expérience la plus démonstrative. Non, il leur dit, soyez des enfants pour ce qui est du jugement, Ne soyez pas des enfants pour ce qui est du jugement. C'est pour ça que je vous disais de prendre votre Bible. Je fais beaucoup d'oppositions, alors il ne faut pas se louper. Pour ce qui est du jugement, ne soyez pas des enfants. Pour ce qui est du mal, soyez des enfants. Il leur dit, comprenez bien, celui qui est adulte n'est pas celui qui a des plus grosses expériences que les autres. Celui qui est adulte, c'est celui qui met en pratique sa foi. C'est celui qui met en pratique l'amour qu'il a pour les uns pour les autres. Paul les invite à tenir compte des autres dans leur pratique des dons spirituels, en prenant en compte l'amour les uns pour les autres, pour mettre une bonne priorité. Et ce que je disais, Paul ne dévalorise pas ou ne souhaite pas dévaloriser ce parler en langue, le parler en langue. Au contraire, lui-même dit le pratiquer. Et il dit le pratiquer plus que tous les autres. Mais étant donné que le rassemblement communautaire soit pour la construction du corps du Christ, alors il met des priorités. Il ne dit pas que ce n'est pas important. Il dit juste, les gars, les filles, mettons des priorités. Dans les rassemblements communautaires, nous devons rechercher ce qui contribue au bien de tous. Nous devons construire la communauté autour du roi. Nous devons affermir les frères et les sœurs dans la foi. Nous devons les instruire, les encourager à adorer notre Seigneur. Paul n'oppose pas l'amour au don de l'esprit. Il dit que c'est d'abord l'amour et ensuite les dons. Il ne dit pas que les dons ne sont pas importants. Il dit que l'amour pour notre frère, pour notre sœur, est plus important. Et avec cette parole percutante à la fin, je préfère dire 5 paroles compréhensibles contre 10 000, inintelligibles, incompréhensibles. Mais pourquoi il dit ça? Quels sont les impacts d'avoir des paroles intelligibles? En fait, c'est très simple. Parler intelligemment, de manière compréhensible, c'est pour que chacun puisse écouter que Dieu est toujours là. Paul rappelle une citation d'Ésaïe, verset 21, et qui pourrait être assez dure d'ailleurs, encore une fois. Je relis. C'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants, et tout s'enchaîne. Paul va comparer le parler en langue, qui est une parole inintelligible, comme un signe de jugement. En Ésaïe, Dieu parlait à son peuple par l'intermédiaire de son prophète, de manière intelligible, compréhensible, pour l'encourager, l'exhorter à s'approcher de lui. Quand les prophètes parlaient, cela montrait un signe de la patience de Dieu et de sa grâce. Dieu leur parlait encore. Dieu était plein d'amour encore avec eux, était patient envers eux. Mais le peuple n'a pas écouté. Dieu a jugé. Il a jugé comment? Par un peuple étranger. Dieu ne communiquait plus avec eux. Dieu montrait sa non-présence par une langue étrangère. Pourquoi Paul fait ce rapprochement? Quand ce qui est dit est inintelligible, alors, pour celui qui écoute, c'est un signe de jugement. Car il ne peut pas être exhorté, encouragé et transformé par Dieu. Nous fermons la discussion avec Dieu. Nous ne lui permettons pas de rencontrer Dieu. Nous ne lui permettons pas de grandir. Nous ne lui permettons pas de se connecter à Dieu quand nous avons des paroles inintelligibles. En revanche, quand ce qui est dit est intelligible, alors pour celui qui l'écoute, c'est un signe positif, un signe d'édification, d'encouragement, de consolation, d'amour de la part de Dieu. Dieu est toujours là et il me parle. Et il parle des non-chrétiens. Pour un non-chrétien, c'est aussi un signe de jugement de ne pas comprendre. Nous lui fermons la porte à l'amour de Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans ce texte. Et le non-chrétien, verset 23, pourra dire qu'ils sont fous au lieu d'être convaincus, percutés par la parole de Dieu. Ok, c'est l'appel. Vous comprenez bien l'enjeu de cette construction. Comment construire si personne ne comprend ? Ça va être compliqué. Ce que Paul nous invite vraiment à faire, et c'est ça la bonne nouvelle du parler intelligible, c'est que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu envoie encore cette relation personnelle avec nous pour former son corps. Et même si nous ne pratiquons pas ça dans nos cultes, on peut étendre cette problématique à tout ce que nous faisons. Est-ce que, quand nous parlons, est-ce que c'est intelligible ? Est-ce que c'est compréhensible pour les gens qui l'écoutent ? Le culte est pour tous chrétiens en réflexion, ou pas. Le culte est pour tous enfants, ados, adultes, vieillards. Le culte est pour tous ceux qui ont des problèmes auditifs, ceux qui ont des problèmes de mouvement ou d'autres problèmes. Le culte est pour tous, car Dieu est pour tous les peuples de toutes les nations. Alors ne fermons pas la porte à ces personnes. Ce texte bouscule et nous invite à réfléchir à nos prises de parole. Dieu nous parle encore aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle. J'ai relevé, dans le chant, on disait « Aujourd'hui, c'est jour de grâce. » Dieu nous appelle. Dieu souhaite encore nous encourager, souhaite encore nous réconforter, souhaite encore nous édifier. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Deviens de plus en plus saint, comme le Seigneur te le demande. Mais il y aura un jour, un autre jour, où Dieu interviendra et il ne parlera plus. Être inintelligible reviendrait à faire venir ce jour dès maintenant. Alors qu'au contraire, Dieu est patient envers nous, pour que nous puissions nous approcher de lui et profiter de cette communauté du roi. Et vous pouvez vous dire, c'est peut-être juste les personnes qui prennent place derrière le micro pour parler devant vous le dimanche matin. Non. Tout ce que nous pouvons dire pendant, sur l'estrade, à côté, avant, après, doit avoir pour but de construire la communauté, doit être intelligible pour les autres. Quand je chante aussi, même si vous êtes là, vous chantez pour construire, édifier votre frère. Quand vous chantez « Compte les bienfaits de Dieu », vous ne parlez pas à Dieu, les amis. Vous parlez à vos frères, à vos sœurs. Vous regardez peut-être un écran, mais vous devriez regarder plutôt vos amis. Et des fois, nos chants, ils sont un peu entre les deux. Et en fait, dans nos chants, nous construisons le corps du Christ. Nous édifions les uns avec les autres. Quand nous prions, nous nous édifions ensemble. Quand nous allons papoter après le culte, nous nous édifions ensemble, nous construisons le corps du Christ. Nos paroles ont un impact. Mais Dieu parle et il y a un impact. L'impact, c'est lequel ? C'est que tous puissent à la fin tomber face contre terre et adorer Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous ».